je suis très content de le recevoir en studio parce que pour moi, je le disais tantôt en début d'émission, c'est une tradition d'avoir mon petit livret d'hockey, le magazine, le kit des pooleuses. Et là, on a celui qui est disponible depuis une semaine seulement, partout, pour se faire une tête en vue des poules qui s'en viennent. Également, au courant de l'année, il y a toutes sortes de magazines aussi. C'est Simon Bédard, rédacteur en chef d'Hockey Magazine, qui est avec nous. Salut Simon.
Salut les boys, ça va bien?
En pleine forme. Je suis content de te recevoir aujourd'hui.
Vraiment.
Et ça, je disais, quand j'avais 15 ans, on arrivait, on voulait faire notre poule d'hockey en chum. On arrivait chez notre ami, on achetait tous un magazine comme ça. On s'installait et là, on faisait notre pause. Ça nous permettait de connaître les joueurs, de connaître les équipes et tout ça. Et là, en plus, j'ai appris cette année que c'est les 20 ans d'Hockey le magazine.
Ouais.
Félicitations, c'est incroyable. Et je veux savoir, pour ceux qui veulent se procurer un magazine comme le Guide des Pooleurs, ben de un, où on peut se procurer quand même le Guide des Pooleurs, Simon?
Ben, le Guide des Pooleurs est vraiment disponible un petit peu partout. Là, fait que kiosque à journaux, pharmacie, tabagie, épicerie. Donc, vraiment, tout débat sur ce qu'on peut vraiment retrouver des magazines. Là, il y a quand même encore plusieurs endroits spécialisés pour ça. Et surtout, celui-là, c'est quand même un numéro quand même, comme genre, tu dis, qui lance le début de la saison de hockey, mais qui a aussi lancé Hockey, le magazine, tout court à la base. Parce que comme on peut voir en page 4, là, le mot de mon patron éditeur, Richard Baudry, à qui on doit vraiment tout le crédit, le mérite d'avoir eu ce flair-là en 2006, de partir un magazine spécialisé en hockey qui... C'est sûr qu'à l'époque, dans 2006, les magazines ou tout le média hockey puis tout ça, ils n'avaient peut-être pas autant que maintenant avec l'abondance des blogs, des podcasts et tout ça. Mais quand même, de partir un produit qui, 20 ans plus tard, perdure et vraiment que le nom a vraiment resté un peu gravé dans l'imaginaire du monde, il faut quand même vraiment le faire. T'sais, moi, ça va être ma 13e année de hockey que vraiment que je m'amuse avec ça puis que je prends vraiment fierté à peut-être vouloir amener ça ailleurs puis tout ça. Mais ça reste quand même que c'est quand même un certain défi. Puis de voir que c'est encore là 20 ans plus tard, puis que le monde l'attend encore autant impatiemment que le premier en 2006. Non, je pense qu'il y a quand même de quoi de comme être très, très fier aussi.
Puis ceux qui se le procurent, à l'intérieur, évidemment, il y aura toutes les statistiques, les projections en vue des joueurs, en vue de la prochaine saison pour les poules d'hockey. Mais on met également la main sur des classements, des. Qu'est-ce que regroupe le magazine du Guide des Pooleurs?
Ben écoute, c'est sûr que c'est 400 projections de rendement.
Ouais.
Fait que c'est 40 gardiens, c'est 100 défenseurs, c'est 240 attaquants. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même. Il y a beaucoup de joueurs quand même projetés là-dedans.
Ouais.
Analyse approfondie des 32 équipes. Puis comme à fond que tu dis avant qu'on rentre en onde, ça va même à fond jusqu'au classement projeté par équipe, division par division. Fait que le monde peut voir où est-ce qu'on voit le Canadien, où est-ce qu'on voit les Panthers et ainsi de suite. Mais il y a aussi plusieurs autres choses. Donc les statistiques quand même là, répertoriées en quelques pages de plusieurs circuits. Fait que pas rien que la Ligue nationale, la Ligue américaine East Coast, junior majeur, même la KHL et tout ça de l'année passée. Il y a aussi une grosse section toujours extrêmement appréciée là, de Steve Turcotte, qui est aussi une très grosse partie de ce produit-là, là, de 100 joueurs qui pourraient vous faire gagner ou perdre votre poule. Donc, en 8-9 catégories différentes, il présente une trentaine de joueurs recrues qui pourraient être faire parler d'eux au cours de la prochaine saison. Des défenseurs, gardiens, attaquants à la hausse, des transactions qu'on va avoir à l'œil. Des joueurs même à éviter pour certains poolers. Fait que c'est quand même ça en gros, là, mais c'est quand même là. Chaque page, le monde souvent feuillette ça, le monde regarde ça, mais il y a quand même beaucoup de recherches et de temps là, pour chaque tableau et tout ça là, affiché.
Il faut le dire, là, pour les classements qu'on a des joueurs ou des équipes, là, c'est fait en collaboration avec des analystes hockey.
Ouais.
Alors on retrouve des Mathias Brunet, des Marc Denis, des Nicolas Ducharme, Guillaume Lefrançois. Alors. Et Steve Turcotte, comme tu l'as mentionné. Alors, ça regroupe des spécialistes qui se prononcent sur la prochaine saison, les joueurs à éviter, les joueurs surprises, ceux qui pourraient éclore également en vue de la prochaine année. Puis là, je veux pas trop en parler, mais là, j'ai vu la projection du rang du Canadien en vue de la prochaine saison. Et je me dis, on en parle depuis le début de la semaine, Jacob et moi, on essaie de faire des prédictions osées, si on veut, dans notre émission en vue de la prochaine année. Je pense que vous pourriez aimer le rang du Canadien en vue de la prochaine saison.
Ouais, ben l'optimisme règne, c'est un peu que j'ai remarqué là, un peu la tendance. Là, je veux dire, c'est pas parce que ces gars-là se laissent emporter par la vague qu'on a eue l'année passée avec la fin de saison surprise. Puis tout ça, c'est quand même, tu as nommé tout ce monde-là, c'est tout du monde extrêmement minutieux, extrêmement crédible dans leur métier et tout ça. Fait que je pense qu'on est vraiment juste rendu à un stade où le Canadien, je pense, est en pleine progression, ça va vraiment du bon bord. C'est sûr que, tu sais, le rang qu'on met, c'est pas top 3 non plus de division Atlantique, puis on n'est pas en train de dire qu'ils vont faire fond les séries à 300%. Je pense que ça va être une lutte quand même effrénée avec, entre autres, Ottawa, peut-être même Columbus, Detroit, c'est ce genre de pattern-là. Mais je pense qu'on est rendu à un stade où, que pour les prochaines saisons, logiquement, si c'est minimalement peut-être équipe de la fond de wildcard, mais je pense qu'on est rendu à un stade où le Canadien peut faire partie vraiment des conversations pour être des prochaines séries.
Mais c'est intéressant ça. Est-ce que vous le sentez cette année, là vous allez voir un peu plus au courant des prochaines semaines, mais est-ce que tu le sens cette année, l'élan d'optimisme, puis c'est écrit directement sur le magazine que vous pouvez voir, mais l'élan d'optimisme envers le Canadien, on a passé par la reconstruction, il y a un long processus, et là de voir que le Canadien va mieux à l'heure actuelle, est-ce que vous le ressentez à l'interne?
Ouais, ben écoute, c'est sûr, d'un, on est sorti un petit peu plus tôt cette année, exprès pour ça, okay. On a senti, je pense que l'année passée, que ça a tellement fini de façon extrêmement, je pense... prometteuse. On regarde les joueurs qui rentrent. C'est sûr que là, même, on a même Hudson en page couverture. Ça reste que c'est un diamant là, qu'on a une chance d'avoir à Montréal. T'sais, même lui, je vais pas dire le nombre de points projetés, mais quand on parle d'élan d'optimisme par rapport au titre, c'est par rapport à l'équipe, mais aussi par rapport à Lane Hudson tout court. Là, parce que je pense quand même qu'il peut encore atteindre un autre palier, là, même si ça semble dur à croire. Là. Mais non, fait que, de façon générale, tu regardes vraiment l'équipe, il y a plus d'imidov qui arrive. T'sais. Dans le fond, on l'a vu un peu deux matchs de saison, on l'a vu cinq matchs en séries éliminatoires, mais là, il arrive vraiment à partir du jour 1 du camp, une nouvelle saison, il sait un peu à quoi s'attendre. Les acquisitions estivales ont été quand même, je pense, intéressantes aussi. Non, ça, je pense que c'est sûr que je peux pas dire nécessairement en termes non plus de retomber au niveau des ventes puis tout ça, parce que c'est encore trop tôt, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont partagé de quelconque façon qu'ils l'ont déjà acheté ou bien qu'ils l'ont déjà eu, et même dès la journée à fond de sortie. Fait que je pense que le monde a hâte de façon générale de l'avoir, mais c'est sûr qu'avec quand même un peu plus cette effervescence qui s'en vient, c'est sûr et certain qu'on pense après vraiment une année de hockey extrêmement intéressante pour ça. Là.
Comment ça se base sur le classement qu'on fait? Là? Je veux pas embarquer dans les projections. Lui, il est à 72 points. Lui, il est à 93. Mais est-ce qu'on se fie sur les experts qu'on a pour justement décider du classement qu'on fait des joueurs?
Ouais, exactement. Fait que, écoute, tantôt, tu nommais les noms, puis que c'est vraiment c'est du monde quand même de renommée là-dedans, mais c'est pas juste trois jours avant, l'exemple, la rencontre annuelle que les gars regardent ça de façon un peu aléatoire, puis tout ça, les gars prennent ça extrêmement à cœur. C'est un panel minutieux. C'est surtout des passionnés de poule puis des passionnés de au niveau des chiffres. T'sais, moi, avant, je m'en suis jamais caché. Ma force en tant que telle, c'est pas nécessairement les chiffres. C'est plus, exemple, les histoires de fond, les rencontres avec les gars, puis le côté plus humain des choses. Fait que moi, vraiment, je coordonne un peu tout ça. C'est les gars qui amènent vraiment un peu leur grain de sel, qui vont avec un peu le consensus de tout ça, c'est des gars quand même que les chiffres, les trios, les probabilités qu'un tel joue avec un tel, à quel point ça peut influencer au niveau de la production, au niveau des trios projetés, puis même moi qui participe à ça, tu sais, quand même, je trouve ça impressionnant de voir à quel point que ces gars-là connaissent ça, à quel point ils sont vraiment calés. Puis comme j'ai dit, tu sais, on arrive la veille. Les gars envoient déjà un classement aléatoire, fait qu'on peut faire déjà un petit consensus au niveau du nombre de buts marqués, du nombre de buts alloués par club pour que les projections aillent un certain sens aussi. C'est beau de dire Draisaitl va faire 50 buts, McDavid va en faire 54, tout ça, mais il faut aussi que ça ait un lien avec comment qu'on voit les Oilers au niveau de la saison, il y a vraiment un processus extrêmement poussé derrière ça, que même je t'explique, mais que je ne pourrais jamais expliquer à 300% tellement que c'est vraiment de quoi.
Non, mais Simon, c'est incroyable. Je regarde le magazine, puis tu as tous les joueurs, puis tu as également les dernières saisons, puis ce qu'ils peuvent accomplir cette année. Puis on prend en considération aussi le nombre de matchs qu'ils vont disputer. Je regarde la section gardien de but qui est sûrement menée par Marc Denis, où on se fie également aux performances de l'équipe. Parce que si tu es un gardien de but, tu arrives dans une nouvelle équipe, et là, ça change complètement la donne. À chaque année, des fois, c'est des données très difficiles. Et dans beaucoup de poules, il y a des gardiens de but.
Ouais.
Alors, de savoir exactement si le gardien de but va être numéro 1, à quel point on partage le travail dans cette équipe-là. Moi, c'est tout ça qui m'impressionne.
Puis on a même, avant, on fait même la mention justement avec la passée numéro 2. Fait que quand, exemple, le gardien est projeté à 50 matchs et plus, il est qualifié comme un numéro 1, comme une grosse charge de travail.
Ouais.
Mais quand c'est 50 matchs et moins, à côté des 2-3 passés qu'on peut avoir, exemple, en hausse, en baisse, fragile, joueur autonome avec ou sans compensation, il y a aussi, avant, la passée numéro 2 qui pourrait vous dire, attention, ce gardien-là pourrait sûrement partager le travail ou du moins quand même peut-être quand même céder beaucoup quand même de départ aux gardiens auxiliaires. Fait que des fois, ça aide vraiment à prendre en considération quand tu fais un choix, justement.
Ah, puis il y en a plusieurs qui ont souvent 3-4 poules, je regarde. C'est juste les recrues à surveiller en vue de la prochaine saison. On parle beaucoup d'Ivan Demidov, mais il y en a plein d'autres.
Ouais.
Puis avec un texte sur chacune des recrues. Par la suite, les 10 risques calculés. Alors, des gars que vous n'êtes pas certain de vouloir prendre parce qu'ils ont eu des blessures au courant des dernières années, à quel point c'est un bon risque ou un mauvais risque pour les poolers, c'est, écoute, c'est une mine d'or, ce magazine-là.
Ouais, fait que, on commence ça environ fin avril, début mai, ouais, avec les clubs qui sont sûrs de ne pas faire à fond les séries pour la portion équipe. Il y a pas mal quand même, peut-être le un peu moins que le trois quarts qui est un peu là, des chiffres, des fonds, un petit recap dans le fond de la dernière saison, ouais, avec un petit texte. Après ça, il y a aussi une autre partie où c'est les trios projetés, les projections de joueurs du noyau, environ les 12-13 projections principales par noyau d'équipe. Après ça, on fait aussi là, les 5 recrues à surveiller par club. Il y a aussi, entre autres, justement les trios aussi à venir. Il y a quand même plusieurs affaires par équipe. Ça, c'est quand même une grosse partie un peu du travail. Et de mettre à jour aussi les tableaux des 400 joueurs projetés, là, avec exemple le temps de glace en avantage numérique, les buts, les points en avantage numérique. Il y a quand même, il y a souvent une grosse partie qui se fait avant la rencontre d'experts au début juillet. Puis après ça, il y a une autre partie finale qui se fait un peu là, vers les 2-3 dernières semaines. Là. Ça paraît fou à dire, là, mais ça part quand même en impression, ça, souvent à la fin juillet, début août. Fait que, tu sais, le monde a hâte, parce que souvent le monde s'attarde à leur pool déjà à partir, ouais, de maintenant. Mais ça reste quand même que, tu sais, on envoie souvent des affaires en impression, exemple à la fin juillet, début août. Puis exemple, comme mettons, l'année passée, on a manqué l'échange de Patrick Laine.
Ouais.
Ça, c'est les. Ça,
c'est bon, les défis c'est, quand même.
C'est les
du travail,
un peu plus qui sont un peu plus comme plates un peu de la chose. Mais c'est pour ça que quand, exemple, qu'on arrive dans le stretch final, on souhaite pas qu'il y ait de transactions majeures non plus. Là,
comme celle de Laine l'an dernier.
Ouais,
mais
exact.
On voit même les projections d'alignement. Ça, je trouve ça incroyable parce que souvent, dans un pool de hockey, t'es pas sûr de prendre un joueur ou un autre. Puis là, tu te dis, OK, mais ce joueur-là va jouer avec qui la saison prochaine?
Ouais.
Puis là, t'as une projection d'alignement. Alors, tu peux voir s'il joue sur le deuxième trio avec qui il va jouer, s'il est sur le troisième trio avec qui il va jouer, la diminution de points que ça peut donner, une projection du noyau. Il y a même des astérix avec les risques de blessure.
C'est sérieux, comme exemple, c'est super, je rappelle, complet. Un cas exemple pour illustrer ça, c'est, ouais, quand les Oilers ont justement acquis Isaac Howard là, du Lightning.
Ouais.
Ça, c'est arrivé, je dirais, 5-6 jours avant qu'on parte au presse. Mais tout de suite, Steve, qui est quand même super calé au niveau des espoirs puis tout ça, il m'a envoyé un texte, il dit faut qu'on rentre Howard. Je pense même qu'il est projeté sur le premier trio ou le deuxième trio, parce que le monde, ils disent, à Edmonton, il est quand même vu. Son arrivée, autant que ça peut avoir de l'air mineur, vu que c'est un gars qui jouait dans les collèges américains à Edmonton, ouais, on le voit quand même comme un ajout significatif. Puis c'est pas un gars qui arrive pour jouer sur un troisième, quatrième trio avec un peu toute l'histoire entourant l'échange puis tout ça.
Ouais.
Fait que il a fallu quand même penser à tout de suite déjà le projeter sur un top 6, à l'insérer quand même à certaines places, au moins pour que le monde sache que si jamais il arrive vraiment au camp puis qu'il casse tout, comme que plusieurs personnes pensent à Edmonton, oubliez pas qu'il n'arrive pas là pour un rôle, mettons, de figurant, exemple, de soutien, mais plus vraiment dans un rôle plus offensif. Là. Même chose, c'est quand même des affaires, des fois, qu'on peut comme penser comme ça. Puis c'est même chose avec Matthew Schaefer.
Ouais.
C'est quand on l'a envoyé au presse, il n'avait pas encore signé, mais ça commençait quand même à... On se posait quand même des questions.
Est-ce qu'il peut commencer la saison?
Mathieu Darche, Patrick Roy, puis tout ça. Puis finalement, aussi, on en a même fait mention à 2-3 places distinctes, que si, exemple... les Islanders, ils l'aiment à ce point-là, puis qu'il offre un contrat, surveillez-le parce qu'il va commencer quand même à 18 ans, puis même s'il n'a pas joué récemment beaucoup de matchs l'année passée. Puis comme de fait, je pense, une couple de jours après que c'était passé en impression, les Islanders le signaient pour avoir son
contrat d'entrée.
Fait que, on peut vraiment le retrouver là-dedans en étant vraiment un membre à part entière des Islanders. Là.
Simon, merci beaucoup d'être déplacé en studio pour nous parler du Guide des Pooleurs 2025-2026.
Ça vaut les boys.
C'est une mine d'or d'informations pour tous les Pooleurs cette année. Les projections, les joueurs, les gars à surveiller, les recrues. On peut se le procurer ou déjà juste rappeler aux auditeurs,
ouais,
pour ceux qui aimeraient l'acheter.
Fond, les kiosques à journaux principaux, les, ouais, pharmacies, les tabagies, les épiceries. C'est tout vraiment les places où ils vendent des magazines. Souvent, tu arrives aux caisses, à l'épicerie, à la pharmacie, c'est là. Souvent, tu sais, les grands commerces à détail, peut-être même Costco, je pense aussi. Là.
Ouais.
Fait que, tu sais, honnêtement, vous n'avez pas à chercher extrêmement loin, puis ils devraient quand même vous sauter à la face, surtout avec Lane Hudson en pleine page.
Je vais faire une. Je vais donner un petit scoop pour les auditeurs.
Vas-y.
J'ai la projection de points d'Ivan Demidov.
Ah, il pourrait d'ailleurs.
60
il pourrait d'ailleurs prédire, que, mettons, combien pendant qu'on va à la pause. Puis tu pourrais dire.
Tu penses combien, Ivan Demidov?
Écoute, je l'ai vu. C'est le premier truc que je suis allé voir dans le.
Non, t'es allé voir la projection de points d'Ivan Demidov.
Regarde, le monde hâte, c'est ça.
Oh, je pourrais pas faire ça. Écoute, il y en a plein sur la messagerie okay, si qui je nous disent à quel point ils ont hâte de lire ça.
Si je t'ai dit Kirby Doc.
Ça, je l'ai pas vu par contre.
Ça, c'est quand même optimiste.
C'est quand même optimiste.
Ben là, c'est.
Fais une projection. Non, non, fais une prédiction.
40.
Je vous donne la réponse concernant la projection de Kirby Doc au retour de la pause. Simon Bédard dans Kill Magazine, un gros merci pour ton temps de t'être déplacé en plus en studio. Merci beaucoup.
Anytime, les gars. Merci beaucoup à vous.
Merci. On s'arrête quelques instants. Au retour, on parle avec Richard Legendre.